Aujourd'hui, notre dossier se penche sur une pine de source absolument fascinante tirée de la session 27 du travail du docteur John Walton.
Et c'est du matériel vraiment dense, hein, très riche.
Ah oui, totalement. L'objectif de notre exploration aujourd'hui est super ambitieux. On veut extraire la théologie d'un des textes les plus anciens et les plus complexes de l'histoire humaine, à savoir le livre de Job.
C'est un texte monumental, ouais.
Mais la mission spécifique de notre analyse, c'est pas de lire ce texte de façon linéaire comme on le ferait d'habitude. L'idée, c'est de construire cette théologie complètement à l'envers. Bon, décortiquons tout ça.
Vas-y, je t'écoute.
Habituellement, quand on essaie de comprendre le fonctionnement d'une machine ultra complexe, le premier réflexe, c'est de lire le manuel d'instruction.
Ouais, page par page, pour voir comment les engrenages s'emboîtent.
C'est ça. Mais parfois, la méthode d'apprentissage la plus révélatrice, c'est d'observer attentivement quelqu'un qui utilise cette machine de la pire manière possible. Genre quelqu'un qui appuie sur tous les mauvais boutons.
Et on analyse exactement pourquoi le système finit par s'enrayer.
Exactement. C'est presque de l'ingénierie inversée appliquée à la spiritualité. On va examiner les fausses perceptions que Job avait de son créateur pour mieux mettre en lumière les erreurs de pensée de notre propre époque, quoi.
C'est une approche géniale. Ce qui est fascinant ici, c'est que la psychologie d'un homme du Proche-Orient ancien, un type couché sur la cendre il y a des millénaires, elle reflète avec une précision clinique la psychologie humaine actuelle.
La nôtre, en gros.
C'est ça. Face à une tragédie inexpliquée, l'esprit humain, il se contente pas de juste ressentir la douleur. Il cherche désespérément à rationaliser. On veut tous trouver une mécanique de cause à effet.
Ah oui, le fameux « Pourquoi moi ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?»
Tout à fait. Et pour véritablement saisir les grandes questions existentielles que soulève le travail du docteur Walton, il faut commencer par s'attaquer à la réaction la plus primitive qui soit.
C'est-à-dire ?
Avant même de parler de grande justice cosmique, l'individu en détresse ressent d'abord une impression suffocante d'être observé à la loupe.
Ah, le sentiment d'être traqué.
Ouais, c'est l'impression d'être la cible d'un micromanagement obsessionnel par une divinité qui d'un coup devient super tatienne et mesquine.
Et les sources documentent cette évolution de manière hyper saisissante. Par exemple, si on regarde les chapitres 7 et 14 du texte, on découvre un Job qui est convaincu que l'univers entier a mis ses affaires sur pause, juste pour se focaliser exclusivement sur ses moindres défauts.
Il pense être le centre d'une attention négative constante, en fait.
C'est exactement ça. Il dépeint une entité qui exige l'impossible des êtres humains, genre qui scrute chaque action avec une loupe, prête à réagir de manière disproportionnée à la moindre offense.
Même les trucs vieux de 10 ou 20 ans, quoi.
Oui. L'idée terrifiante que le créateur serait tapi dans l'ombre, gardant rancune pour un tout petit faux pas. Pour vraiment imaginer la lourdeur psychologique de ça, c'est comme si on imaginait le divin sous les traits d'un contrôleur fiscal obsessionnel.
Oh, j'adore cette image.
Tu vois le genre d'inspecteur de l'administration qui débarque dans ton bureau sans prévenir. Il fait ouvrir une boîte d'archives super poussiéreuse avec une déclaration d'impôt vieille de 10 ans.
Et il cherche la petite bête.
Il utilise une loupe pour chercher ligne par ligne un seul reçu manquant. Un reçu de 5 euros pour un café. Et une fois qu'il constate qu'il manque ce misérable reçu, bam!
La sentence tombe.
La sentence tombe. Il saisit la maison, la voiture, il bloque les comptes bancaires et il ruine la vie entière de la personne. C'est une vision hyper étouffante qui ajoute une couche d'anxiété insoutenable. Par-dessus une douleur physique qui est déjà là.
Le travail de Walton met vraiment en évidence à quel point cette dynamique elle est contemporaine. Quand une épreuve survient aujourd'hui, le premier réflexe pour beaucoup, c'est de se crier « Mais qu'est-ce qu'on attend de moi ?»
Ouais, j'ai tout fait correctement. Pourquoi ça m'arrive ?
Exactement. Et l'erreur fondamentale de cette posture, c'est qu'on porte une attention beaucoup trop grande au jugement et à la comptabilité morale. Mais le truc intéressant, c'est que les textes anciens offrent eux-mêmes des garde-fous contre cette illusion du micromanagement.
Ah bon ? Comme quoi, par exemple ?
La source fait un parallèle super éclairant avec Matthieu 5, verset 48. C'est l'injonction qui appelle à être parfait. Historiquement, une lecture un peu angoissée y a vu justement le manuel de ce fameux contrôleur fiscal.
Genre un appel à n'avoir aucune rature sur la feuille.
Voilà. Or, dans son contexte d'origine, cette perfection, ça ne désigne pas du tout une précision comportementale chirurgicale et sans faille. C'est plutôt une notion de plénitude, d'intégrité globale.
D'accord. Donc l'exigence porterait plutôt sur une direction générale du cœur, quoi. Pas sur un carnet à souche où chaque virgule mal placée déclencherait une alarme cosmique.
C'est tout à fait ça, et c'est tout l'enjeu du psaume 103 que Walton convoque pour équilibrer la discussion.
Il dit quoi ce psaume ?
Ce passage, il affirme que la divinité connaît intimement la fragilité de la condition humaine. Il y a une reconnaissance inhérente que la structure humaine, elle est faite de poussière, on est sujet à l'erreur.
Donc maintenir la croyance en un genre de scrutateur céleste obsédé par nos petits défauts, c'est du pur auto-sabotage mental, en fait.
Complètement. Job y souffrait déjà dans sa chair de manière atroce, on le sait, mais sa propre construction théologique d'un dieu mesquin, ça le torturait intellectuellement.
C'est la définition même de la double peine. La tragédie te frappe, et au lieu de chercher du réconfort, ton esprit se persuave que tu as dû oublier de cocher une case sur un formulaire bureaucratique imaginaire.
Ouais, c'est terrible.
Mais bon, la frustration face à ce contrôleur fiscal, elle peut pas stagner éternellement. Quand la théorie du tyran minutieux, ça suffit plus à expliquer l'ampleur irrationnelle du désastre, l'esprit en crise y passe à un niveau d'accusation supérieur.
Il monte en grade dans la colère.
Exact. Lorsqu'il devient évident que la punition ne correspond à aucune petite erreur d'inattention, la remise en question s'attaque au tissu même de l'univers, c'est-à-dire le système de justice cosmique.
L'évolution de la pensée documentée dans ces textes, elle est vertigineuse. Si tu regardes les premiers chapitres, genre 1, verset 21 et 2, verset 10, ça montrait un homme dans une posture d'acceptation presque stoïque, quoi.
Ouais, le fameux « l'Éternel a donné, l'Éternel a repris ».
C'est ça. Une résignation qui reconnaît que ce qui est donné peut être repris. Mais sous le poids de la douleur chronique, cette acceptation, elle se fracture totalement. On passe d'un sentiment de mesquinerie subie à l'accusation formelle d'une injustice systémique orchestrée depuis tout en haut.
Et les mots utilisés par Job deviennent de véritables armes. Il ne se contente plus de pleurer sur son sort, il exige littéralement une audience au tribunal de grande instance de l'univers, quoi.
Il veut un procès en bonne et due forme.
Grave. Et le glissement psychologique, il est palpable. Dans Job 9, verset 19, il y a encore une petite reconnaissance craintive de la toute-puissance. Il dit « Qui pourrait le défier ?» Et pourtant, boum, à peine trois versets plus loin, au 9, 22, le point de non-retour est franchi.
Il lâche les freins.
Totalement. L'accusation tombe et elle est glaciale. Il dit que la force créatrice détruirait aveuglément, balayant sur le même pied d'égalité l'homme intègre et le méchant.
Waouh! Pour comprendre la gravité de cette accusation, il faut vraiment s'arrêter sur un concept hébreu central que Walton analyse. C'est le mot « mishpat ».
Mishpat, ouais. Ça s'écrit comment? M-I-S-H-P-A-T?
C'est ça. Habituellement, c'est traduit simplement par « justice ». Mais ce terme, il possède dans le Proche-Orient ancien une nuance beaucoup, beaucoup plus riche. Le mishpat, ça désigne pas seulement le système légal punitif tel qu'on l'imagine aujourd'hui.
D'accord. C'est plus large que ça.
Exactement. Ça englobe l'idée de maintenir l'ordre social, de restaurer l'équilibre, de protéger les personnes vulnérables pour que la société entière fonctionne de manière harmonieuse. Et dans les chapitres 19, 27 et 34, la complainte de Job est martelée avec une insistance dingue. Il dit que ce mishpat, cet équilibre vital, lui est activement et délibérément refusé.
C'est fort. Et le refus de cet équilibre, ça pousse l'humain acculé à carrément changer de vocabulaire. Le chapitre 16, des versets 9 à 14, montre un déferlement sémantique vraiment stupéfiant. Le langage devient purement martial.
Ouais, Dieu devient l'ennemi.
L'entité suprême n'est plus du tout perçue comme un souverain un peu distant. Elle est qualifiée d'assaillant féroce, d'adversaire impitoyable, de traître même. Un guerrier sans aucune pitié qui attaque de toutes parts.
C'est d'une violence inouïe.
Et la gravité de ses propos, ça justifie que, bien plus tard dans le chapitre 40, une réprimande divine soit prononcée spécifiquement contre cette accusation d'injustice.
Si nous lions cela à une vision plus globale, on touche vraiment au cœur philosophique du problème. L'erreur de Job, et franchement c'est une hypothèse erronée qu'on partage massivement de nos jours, ça consiste à supposer que le cosmos tout entier, à chaque milliseconde, porte l'empreinte directe des attributs de son concepteur.
C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que Dieu gère chaque détail.
Voilà. C'est l'attente que le plan quotidien de l'univers, ce soit de s'assurer que la justice soit faite de manière visible, immédiate et mesurable à chaque coin de rue. C'est ce qu'on appelle souvent le principe de rétribution.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il faut se faire l'avocat du diable à l'instant. D'un point de vue purement logique et rationnel, cette attente de justice immédiate, elle semble totalement légitime, non ?
En apparence, oui.
Bah oui, si on pose comme prémisse fondatrice qu'une entité est à la fois omnipotente et parfaitement juste, la déduction logique pour un humain, c'est de s'attendre à ce que la justice soit notre expérience quotidienne ininterrompue.
C'est sûr que vu comme ça.
Si la source de l'ordre absolu Créer un système, comment notre intellect peut-il concevoir que le chaos frappe la vie de quelqu'un de façon aussi violente, arbitraire et destructrice? Pour filer une métaphore de tous les jours, imagine que le plafond d'un salon s'effondre sans aucune raison sur une famille assise en dessous.
C'est l'horreur.
C'est naturel de tenir l'architecte pour responsable, non? De le qualifier d'incompétent, voire de criminel. L'esprit humain exige que l'architecte s'explique.
Et cette exigence d'explication, c'est la pierre d'achoppement de toute réflexion sur la souffrance. L'analyse de Walton offre ici une clé de lecture fondamentale. Il distingue trois états dans la création. L'ordre, le non-ordre et le désordre.
Ok, vas-y, développe un peu.
La création, selon ces textes anciens, ça consistait à amener de l'ordre à partir du non-ordre. Mais attention, le non-ordre n'est pas le mal absolu. Le non-ordre, c'est l'absence de structure. C'est le potentiel brut, sauvage et imprévisible de la nature. La météo, la tectonique des plaques, la liberté inhérente des éléments et, par extension, la liberté des agents humains.
Ah, je vois. Donc le non-ordre, ce serait un peu comme l'océan déchaîné. C'est majestueux, mais c'est dangereux. Par opposition à une piscine municipale qui est parfaitement chlorée, tempérée et encadrée par des maîtres nageurs.
C'est une excellente illustration de la différence, ouais. Exiger qu'il n'y ait aucun non-ordre, qu'il n'y ait que de la justice instantanée et un confort perpétuel, ça nécessiterait une divinité qui micromanage chaque atome, chaque cellule, chaque pensée de chaque être humain pour empêcher la moindre friction.
Un contrôle total, quoi.
Le résultat, ce serait pas un monde florissant, mais un terrarium stérile et complètement robotique. Or, le dessin cosmique, selon Walton, il reflète d'abord la sagesse. Dieu est la source de l'ordre, mais le non-ordre et le désordre ont la permission d'exister sous son contrôle. Le problème survient quand l'esprit humain, constatant que la justice n'est pas rendue selon son propre calendrier, il conclut que la divinité agit en dehors de la justice, faisant d'elle un agent du chaos.
Et ce raisonnement humain, bien qu'il soit hyper compréhensible face à la douleur, il heurte un mur philosophique majeur, et le concept de norme. Car si la justice doit être expliquée selon nos termes, il y a un vrai problème de hiérarchie.
De justice, c'est-à-dire notre propre définition contemporaine, humaine et limitée de ce qui est équitable, ça revient à soumettre l'entité suprême à cette norme. Philosophiquement, on appelle ça rendre l'entité contingente.
Contingente, d'accord.
Ouais. Si le créateur dépend de notre validation humaine de la justice pour être considéré comme bon, alors cette norme de justice est supérieure à lui. Il devient soumis à la loi, ce qui ferait de lui moins que Dieu, en fait. L'immense arrogance du désespoir, ça consiste à supposer que notre compréhension fragmentée d'un événement isolé est supérieure à la sagesse insondable qui maintient toute la tapisserie de la réalité en équilibre.
C'est fou quand on y pense. L'ironie est écrasante. C'est comme essayer d'utiliser les lois de la gravité pour convoquer au tribunal celui qui a inventé la gravité dans l'espoir de le condamner. C'est juste une impossibilité structurelle.
C'est une très bonne image, ça.
Et c'est précisément ce constat d'échec qui pousse la dynamique humaine vers son troisième grand travers. Réalisant qu'il est impossible de traîner le créateur de l'univers devant une cour d'assises pour forcer un jugement et obtenir cette fameuse justice, l'humain acculé y capitule pas.
Oh non, il cherche une autre faille.
Face à une porte juridique verrouillée de l'intérieur, l'instinct de survie intellectuelle dicte de changer de stratégie. S'il n'est pas possible de gagner sur le plan du droit pur, l'ultime recours, c'est d'essayer de forcer la main du grand décideur par la manipulation spirituelle.
Ah, la manipulation. La transition vers ce mécanisme de défense, elle est fascinante. Elle est documentée en détail dans le chapitre 31. Job en vient à considérer que, puisque le silence règne du côté céleste, l'entité en face doit être suffisamment apathique ou prévisible pour être gérée.
Gérée, carrément.
Ouais. Ayant échoué à obtenir un procès en bonne et due forme, il lance une offensive rhétorique en prononçant un serment solennel d'innocence. Et le truc, c'est que l'objectif n'est d'ailleurs même plus d'obtenir des réponses théologiques profondes parce que le lien de confiance est rompu. L'objectif, il est devenu horizontal.
Retrouver un équilibre social et sauver la face devant ses pairs, quoi.
Exactement.
Et le serment d'innocence agit comme un défi frontal. Il dresse publiquement un inventaire de toutes les infractions possibles. L'oppression des pauvres, le mensonge, l'infidélité, tout y passe. Et il affirme ne jamais y avoir succombé. Il invite ensuite avec une audace folle la force suprême à le foudroyer sur le champ s'il s'avère qu'il ment.
C'est très très risqué.
C'est un coup de poker magistral. Et c'est basé sur une certitude redoutable. Il sait pertinemment que le silence divin, expérimenté depuis le début de la tragédie, il va persister.
Et ce silence anticipé, c'est l'arme de manipulation par excellence. Puisque l'accusation reste sans réponse et que la foudre ne tombe pas, le silence est transformé en exonération passive. La logique interne de ce stratagème, elle est d'un machiavélisme brillant.
Ah oui, c'est hyper calculé.
Si la ruine initiale est totalement injustifiable selon le principe de rétribution stricte, que tout le monde accepte, alors le système cosmique est pris en flagrant délit d'incohérence absolue. Résultat, la réputation terrestre de Job sort blanchie de l'épreuve aux yeux de sa communauté, tandis que la réputation de l'architecte de l'univers, elle, est traînée dans la boue.
C'est un retournement de situation complet.
Et il est intéressant de noter, d'après les sources, que cette propension à vouloir gérer le surnaturel n'est pas née de la crise. Dès le chapitre 1er, avant même que la tragédie ne frappe, le texte montre un père de famille exécutant des rituels préventifs et freinés. Il espérait déjouer par avance les hypothétiques colères divines contre ses enfants.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour quiconque navigue dans les eaux de la spiritualité aujourd'hui? Parce qu'en observant ce mécanisme de manipulation, le parallèle moderne y crève les yeux.
Ah, tu penses à quoi?
C'est le triomphe absolu de la mentalité transactionnelle. C'est cette perception super tenace d'un univers spirituel qui fonctionnerait ni plus ni moins comme un gigantesque distributeur automatique.
La machine à sous spirituelle.
Exactement. Il y a cette illusion persistante que si on insère méticuleusement le nombre exact de pièces, genre un don régulier à une œuvre de charité, une assistance sans faille aux offices, l'utilisation répétitive des mots d'adoration appropriés et une morale irréprochable, il devient possible de forcer la grande machine cosmique.
On met la pièce et on attend le produit.
On s'attend à ce qu'elle débloque mécaniquement et distribue la petite canette dorée qui contient une vie bénie, prospère et sans aucune souffrance. Et le drame, c'est que lorsque la canette reste coincée, la réaction humaine, elle consiste à secouer violemment la machine en hurlant au scandale.
Cela soulève une question importante quant à l'intégrité de la démarche spirituelle de chacun. L'avertissement de l'analyse du docteur Walton, ici, il est sans appel. L'attitude transactionnelle, ça révèle une croyance toxique. Ça présuppose que la force qui régit la réalité est soit totalement froide et indifférente, soit fondamentalement manipulable par une combinaison de mots ou de gestes humains.
C'est réduire Dieu à un code de triche de jeu vidéo.
Oui, réduire la spiritualité à un calcul d'investissement et de retour sur investissement, c'est adopter un mode de pensée exclusivement centré sur le bénéfice personnel. C'est l'importation d'une mentalité consumériste au cœur même de l'âme. La réflexion théologique exige de rejeter catégoriquement ce paradigme. L'ordre cosmique et l'affection divine ne s'achètent pas avec la monnaie des bonnes actions.
C'est une déconstruction radicale de nombreux automatismes humains. L'objectif initial de l'analyse, c'était de bâtir la théologie en disséquant les erreurs. Et le tableau qui émerge de cette ingénierie inversée, il est juste spectaculaire.
Ça met un sacré coup de projecteur sur nos propres biais.
La véritable force du récit, telle qu'analysée par Walton, elle réside pas dans de grandes explications édulcorées sur le pourquoi de la souffrance. Elle émerge avec une clarté brutale quand on prend la peine d'identifier ces trois pièges majeurs. La terreur d'être traqué par un comptable céleste mesquin, la colère incandescente face à une prétendue injustice systémique parce que la réalité ne suit pas notre définition du droit, et enfin, l'arrogance puérile de croire qu'une série de rituels peut manipuler l'infini comme on programme un micro-ondes.
C'est un excellent résumé.
Identifier ces penchants très naturels, très humains, et entreprendre de les corriger, c'est ce qui procède à un grand nettoyage psychologique. C'est déblayer le terrain de nos illusions pour préparer l'esprit à aborder la véritable théologie de la souffrance. Ce qui constitue d'ailleurs la prochaine étape du travail de Walton.
Et pour clore cette exploration sur les failles de la perception humaine, il y a une conclusion audacieuse, presque déstabilisante à tirer de ce parcours.
Je t'écoute.
L'erreur la plus tragique de Job a consisté à vouloir à tout prix faire entrer un être infini dans les minuscules boîtes conceptuelles de la justice légale humaine et de la comptabilité comportementale. Si tel est le piège absolu, alors la définition même de la maturité face à la souffrance doit être révisée.
Ah oui, c'est-à-dire ?
La plus grande démonstration de sagesse spirituelle ne consiste probablement pas à élaborer des arguments philosophiques toujours plus complexes pour réussir à justifier ou à expliquer rationnellement chaque irruption de douleur dans le monde. La véritable sagesse réside peut-être dans l'apprentissage d'un art beaucoup, beaucoup plus difficile, celui de trouver la paix à l'intérieur même de ces redoutables zones de non-ordre et de désordre.
Sans forcément chercher à tout contrôler.
C'est apprendre à exister sereinement au milieu de l'inexpliqué, sans céder à l'urgence viscérale d'exiger que l'univers entier s'asseye dans le box des accusés pour justifier la moindre de ces tempêtes.
Waouh! apprendre à respirer avec sérénité, même lorsque la grande machinerie semble s'emballer et que les engrenages grincent. C'est une perspective vertigineuse qui redéfinit toute l'expérience de la réalité.
Ça bouscule pas mal de certitudes.
Ça ramène directement à l'image du début de notre discussion. L'observation minutieuse de quelqu'un tentant de forcer les rouages d'une mécanique complexe avec la mauvaise clé. En regardant le métal se tordre sous la pression de son anxiété et de ses exigences, ça mène à une épiphanie majeure. Le système n'était tout simplement pas conçu pour être contrôlé, géré ou micromanagé par l'utilisateur humain.
C'est la leçon la plus difficile à accepter, mais c'est la plus libératrice.
C'est une réflexion monumentale à emporter avec soi. Un immense merci pour l'analyse brillante de ces mécanismes anciens qui résonnent avec tant de force aujourd'hui. Pour tous ceux qui écoutent et qui apprécient de creuser largement sous la surface des concepts évidents, il y a là une invitation puissante. Interrogez les attentes profondes de l'esprit humain face à l'ordre des choses et laissez cette réflexion infuser bien au-delà des minutes partagées lors de cette exploration.